Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et avant de conclure, enfin pour cette dernière chronique de la saison, Yvan Rioufel, vous avez fait le choix de parler un petit peu eh bien, du soleil avant les vacances, plutôt plus précisément de la canicule qui a frappé la France pendant une dizaine de jours, qui a presque immobilisé au moins les débats, sinon le pays. Quelles leçons politiques en tirer selon vous ?
Ben je tire au moins deux leçons. D'abord, l'impréparation des pouvoirs publics, en dépit du fait que le réchauffement climatique, en effet, a envahi les discours politiques depuis maintenant des années. Et puis, cette mascarade qui a faim de nous vendre un État protecteur alors que l'État ne protège plus personne. Bon, tout d'abord, sur cette impréparation, je trouve qu'elle, c'est en effet, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce qui me semble le plus révélateur de la crise de la politique, et d'autant plus que dans l'hommage qui a été rendu à Marc Bloch par le président de la République lors de sa panthéonisation la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a omis de rappeler les similitudes troublantes entre 1940, c'est-à-dire cette époque qui marque l'étrange défaite, le livre phare de Marc Bloch, et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que Marc Bloch a écrit, en parlant de 1940, nos chefs, il parlait des chefs militaires, n'avaient pas pensé cette guerre, ils en subissaient la fatalité. On pourrait écrire quasiment la même phrase aujourd'hui en disant nos chefs n'avaient pas pensé le réchauffement climatique, ils en subissaient la fatalité. Et naturellement, je l'illustre ceci avec cette polémique absurde qui a eu lieu sur la politisation des climatiseurs, de la clim, qui serait pour les uns d'extrême droite, qui serait réactionnaire pour d'autres, etc. Donc on est tombé là dans une déconnexion des réalités qui était également la déconnexion des réalités des élites, qui était cette déconnexion que décrivait Marc Bloch également en 1940. Et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, je soutiendrai que le dérèglement climatique est aujourd'hui bien plus grave, dans le fond, que le dérèglement des mentalités. Si l'on voit bien que les Verts, par exemple, se sont focalisés telle une secte amiche pour refuser ces climatiseurs, où on a pu entendre qu'ils voyaient ça comme une sorte de régression, et l'on a pu entendre le ministre de la planification écologique, ou de la transition écologique, pardon, Madame
Monique Barbu,
qui s'est dite horrifiée, c'est son terme, à l'idée de mettre de la clim partout, et elle a dit cette chose absurde, cela ne va pas éviter les feux de forêt, comme si dans les arguments, on laissait croire que mettre de la clim éviterait les feux de forêt. Donc, on voit bien, malheureusement, que dans ces raisonnements-là, on voit qu'il y a toute une partie de la classe politique qui ne comprend rien, effectivement, d'abord à la perspective, à l'urgence de mettre de la climatisation. On a appris lors de cet épisode caniculaire que l'hôpital de Nantes, par exemple, en construction, ne donnera pas la clim dans les chambres des patients, il y aura simplement des murs végétalisés. La gare de Nantes a eu cette même idée loufoque de faire un grand hall qui, sans climatisation, c'est devenu une fournaise dans les moments de canicule. Il fait 40 degrés à l'intérieur et 30 à l'extérieur. Donc on voit qu'il y a là quand même, en effet, une impréparation. Mais en ce qui concerne la mascarade, c'est naturellement, c'est toujours la même histoire de cet État protecteur qui ne protège rien, et qui, parce qu'il se montre incapable d'assurer notamment la sécurité des Français, des sécurités des citoyens, essaie de multiplier, au prétexte des crises sanitaires ou des crises climatiques, de multiplier des postures d'infirmiers, d'état mama. C'est ainsi que Jean-François Revel appelait cette propension à materner les citoyens, appelons-la l'État nounou, ça revient exactement au même, c'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois, les pouvoirs publics enfilent tout de suite leur panoplie d'urgentistes. Et j'ai entendu, par exemple, j'ai lu, du moins, dans le journal du dimanche, le dimanche donc, de dimanche dernier, j'ai lu une interview de M. Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui se flattait à l'occasion de cette canicule d'avoir été à l'initiative, je reprends mes notes, de 336 mesures, dont 64 arrêtés d'interdiction d'événements sportifs, 14 arrêtés d'événements culturels, et il se flattait également d'avoir été à l'origine d'une directive au préfet afin d'interdire aux Français de boire de l'alcool en certains lieux, en certaines dates, et donc ça rappelait exactement le déconomètre que l'on avait pu connaître lors de la période du Covid, où là aussi, vous aviez l'État normatif qui avait multiplié les impératifs, les interdictions afin d'empêcher les Français de vivre normalement, notamment avec une société du non-contact qui demandait à ce que l'on mette les grands-parents dans les arrières-cuisines, etc. Bon, voilà ce qu'est l'État nounou, c'est-à-dire effectivement un État qui feint de s'intéresser dans une grande empathie aux Français, alors qu'en réalité, naturellement, cet État nounou se désintéresse des Français. Et j'en veux pour preuve, malheureusement, qu'à cette même période de canicule, nous avons vu effectivement la réalité terrible de l'indifférence d'État à travers le lynchage du jeune Louis, qui 17 ans, qui est donc cet adolescent qui a été tué à coups de pied dans la tête par à Narbonne, très récemment, par 5 adolescents qui étaient confiés comme lui à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est précisément une structure publique, une structure d'État qui a toujours comme prétention d'aider les parents désemparés. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est devenue le lieu d'un véritable ensauvagement, ce mot d'ailleurs que Laurent Dunez ne veut pas prononcer, car il serait pour lui excessif et qu'il se prêterait à des manipulations politiques. Mais c'est bien naturellement un ensauvagement que l'on a vu d'abord, ne serait-ce que par les images, parce que ces imbéciles, ces meurtriers ont filmé leur crime odieux et ont laissé passer ces images, ce qui a permis d'ailleurs de les identifier. Et donc, ce que l'on voit à travers tous ces exemples, c'est en effet une faillite de l'État et une faillite de l'État qui aujourd'hui crève les yeux.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je pense à cette question Yvan Rioufol, mais je reviens sur la question de la canicule, une autocritique à faire, parce qu'une certaine partie des Français, même une certaine partie de la droite en général, niait tout dérèglement climatique de près ou de loin, expliquait chaque été qu'il y avait toujours fait chaud, etc., et que rien de nouveau sous le soleil, si vous me passez l'expression. Là, on arrive quand même à des épisodes extrêmes qu'on n'a jamais vécu quand même dans notre histoire. C'est vrai que cette canicule est quand même pire que celle de 2003, pire que celle de 1976. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le débat public, la nécessité et de rappeler la nécessité de s'adapter et puis aussi peut-être de faire évoluer les mentalités sur cette question du changement climatique?
Oui, mais alors oui, vous avez raison. Peut-être y a-t-il eu effectivement dans l'opinion un climato-scepticisme qui d'ailleurs ne tient pas tellement à la réalité du réchauffement climatique, mais plutôt à la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, moi-même, je serais bien incapable de vous dire en quoi l'homme est responsable, si c'est à 100%, à 50% ou à 20% de ce réchauffement climatique. Je vous rappelle quand même qu'en 1793, le 2 juillet 1793, il faisait 40 degrés à Paris. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas non plus quelque chose qui apparaît aujourd'hui.
Oui, enfin, cela étant, encore une fois, comme je disais, on n'a jamais vécu de près ou de loin quelque chose
Je suis d'accord avec vous, mais c'est précisément pour cela que je vous dis qu'il y a eu une impréparation, parce que tous ceux qui alertaient, à commencer par les écologistes et ceux qui se réclamaient de ce courant-là, n'ont pas pensé les alternatives qui étaient précisément les alternatives qui pouvaient être portées par la climatisation. Mmh. Et c'est en cela que je dis qu'il y a en effet une faillite de l'État, et une faillite de l'État qui n'est pas simplement une faillite d'ailleurs sécuritaire, c'est aussi plus prosaïquement une faillite financière, car on a appris également la semaine dernière que la dette publique avait dépassé les 3 500 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'elle aura augmenté de 1 280 milliards d'euros en 10 ans de règne d'Emmanuel Macron, qui était donc ce prétendu Mozart de la finance qui avait été intronisé par tous ses parrains de Davos et de la finance internationale. Aujourd'hui, une intervention du FMI, comme il y a pu en avoir une en Grèce il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui envisageable pour la France. Et pour vous donner quand même l'état de la faillite, qui ne se réduit pas d'ailleurs non plus à l'état d'une faillite des services publics. Je passe maintenant rapidement sur ce sujet de qui est devenue l'éducation nationale, naturellement, avec un effondrement de tout ce service-là, mais également, ne serait-ce que dans le rapport au transport, je suis comme beaucoup de Français, je prends la SNCF, et aujourd'hui, prendre le train est devenu un saut dans l'inconnu, tant maintenant les pannes se multiplient pour un oui ou pour un non, et il y a une sorte de tiers-mondisation qui apparaît dans un certain nombre de services publics. Donc ceci, il faut le prendre en compte, et tout est en place, dans le fond, pour rejeter l'État ventripotent, l'État impuissant. Et pourtant, et c'est le paradoxe que je voulais également soulever auprès de vous et de vos auditeurs, c'est que il y a toujours une grande réticence de la part du monde politique à s'ouvrir précisément à l'alternative à cet État omnipotent qui serait l'alternative libérale, qui seule pourrait remettre l'État à sa place et qui seule d'ailleurs est la meilleure antidote à ce courant totalitaire qui notamment apparaît à travers l'extrême gauche. Or, je m'aperçois que cette culture libérale a beaucoup de mal à s'installer dans le débat public. J'espère qu'elle va s'installer à travers maintenant la campagne présidentielle. Je pousserai d'ailleurs à ce qu'elle le soit, mais je me rends compte que cette idée n'est pour l'instant que timidement avancée, alors notamment par David Lisnard qui s'en réclame très ouvertement, notamment
en
par
un mot, Yvan Rioufol, pardon.
Pardon ?
En un mot, s'il vous plaît, pour conclure, on arrive au bout.
On arrive au bout. Alors, cette idée libérale, donc, qui est défendue par David Lisnard, par Éric Ciotti ou par Jordan Bardella, devrait être aujourd'hui le symbole qui devrait permettre effectivement à cette société des oubliés de se rendre compte qu'elle-même fait du libéralisme, comme M. Jourdain faisait de la prose, en remettant en cause effectivement l'omnipotence de cet État asphyxiant. Voilà.
Merci beaucoup, on va finir là-dessus. Effectivement, merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous durant toute cette saison. Et bien sûr, on vous retrouvera à la rentrée, bien sûr, ici sur Ligne Droite. Merci Yvan Rioufol.
Merci à vous.
Ligne Droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et comme tous les mardis, je cède ma place à Richard de Seize pour mener cet entretien.
Merci Alexandre et bonjour Mériadec Raffray.
Bonjour Richard, est-ce que vous m'entendez bien ?
On vous entend très bien. Donc vous êtes le rédacteur en chef Monde Valeurs Actuelles et on a décidé de parler aujourd'hui de l'armée française et de toute l'actualité qui se prépare en vue du 14 juillet. Voilà, est-ce que l'armée française est en ordre de marche ou pas ? Je ne suis pas en train de parler de la manière dont les régiments vont défiler, je suis plutôt en train de parler de l'équipement, de la loi de la programmation militaire qui est en cours de discussion. Et est-ce que les Ukrainiens vont défiler à Paris ou pas ? Voilà. Donc, comment ce 14 juillet nous permet-il de faire le point sur l'armée française ?
Alors, permettez-moi une assise technique, je vous entends bien, mais je ne vous vois pas, Richard. Mais enfin, c'est pas grave. Écoutez, la manière dont l'armée française va défiler le 14 juillet est quand même un point intéressant. Et si vous me permettez, contrairement à votre propos liminaire, j'aimerais bien commencer par ça, parce que, comme d'habitude, comme tous les 14 juillet, en fait, la manière et le choix des troupes, des morceaux ou des tableaux en fait qui seront présentés aux Français dit quelque chose, et encore plus sans doute peut-être sous le règne d'Emmanuel Macron, dit quelque chose des messages que veut faire passer l'exécutif. Et ce 14 juillet, c'est-à-dire ce mardi prochain, et j'avais voulu terminer en fait la saison de Ligne Droite et mes interventions tous les mardis matins par ce sujet, puisque c'est la dernière que nous passons ensemble, cher Richard. De cette saison, bien sûr. Le 14 juillet prochain est aussi le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron. Et lui, ce sera vraiment son dernier, contrairement à nous, puisque son quinquennat s'achèvera avant juillet 2027. Il y aura donc une nouvelle présidentielle. Et l'on sent par petites touches, par petits signaux, qu'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est à la manœuvre pour concevoir, en tout cas qui valide la conception de ce défilé, comme chef des armées, ce qui est bien normal, on sent bien qu'il cherche à nous léguer son héritage politique et stratégique. Et c'est ça que je voudrais essayer de décrypter avec vous ce matin, si vous le voulez bien, Richard, en commençant peut-être par des chiffres du défilé, qui sont des chiffres, comme le disait le général Loïc Mizon, qui est le gouverneur militaire de Paris, et à ce titre le grand ordonnateur de ce défilé qui aura lieu mardi prochain. Des chiffres qui sont inédits, 8500 participants, dont 6000 à pied, 95 avions, 35 hélicoptères, il y aura même 193 chevaux, tradition oblige. Ces chiffres n'ont jamais été aussi importants dans un laps de temps qui, lui, ne changera pas. 2 heures de défilé de 12 heures, de 10 heures à midi, expliquait le général Mizon. Il a donc fallu concevoir un défilé, faire rentrer en fait tous ces chiffres inédits dans cette chaussure, dans cette boîte qui, elle, ne change pas. Et en fait, l'idée des concepteurs de ce défilé, c'est de montrer en fait une armée qui est plus massive, plus puissante et plus innovante. Ça, ce sont les mots mis en avant par celui donc qui pilotera, enfin qui a mis en œuvre ce défilé. Et derrière ces mots, c'est encore plus précis. Les tableaux que nous allons voir, finalement, c'est ce que j'appelle un peu le triptyque que l'exécutif français a assigné à nos militaires en réponse aux deux grands aiguillons stratégiques vus en tout cas de Paris aujourd'hui, à savoir d'une part le soutien à l'Ukraine et d'autre part la fameuse menace russe. Je rappelle à vos auditeurs qu'à partir à peu près février 2024, Emmanuel Macron a véritablement changé, a véritablement, comment dirais-je, durci sa posture vis-à-vis de l'Est. Premièrement, en prenant l'initiative de mettre sur la place européenne l'idée d'une force qui viendrait en fait s'interposer entre les Ukrainiens et les Russes en cas d'un éventuel cessez-le-feu, qui serait la première étape à un plan de paix, finalement le même schéma que celui auquel on assiste entre les États-Unis et l'Iran, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est arrivé un an plus tard à peu près, avec une montée en puissance progressive depuis l'Élysée, et avec un point d'orgue que je situe quasiment l'année dernière, à quelques semaines près de la période où nous situons, c'est-à-dire le 13 juillet 2025, si vous vous rappelez, le chef d'état-major des armées de l'époque, le général Thierry Burkhard, avait donné une conférence de presse qui était censée en fait être un peu son adieu puisqu'il quittait ses fonctions, dans lequel en fait il avait endossé officiellement la fameuse menace russe brandie par l'Élysée et ses communicants, dans une perspective d'ailleurs assez politicienne. Et le fait que le chef d'état-major des armées à l'époque l'ait repris à son compte officiellement, comment dirais-je, transformait cette petite manœuvre politicienne en véritable mantra stratégique officiel. Et ce sont donc, pour résumer, ces deux mantras, le soutien à l'Ukraine et la menace russe, qui ont guidé la remontée en puissance de nos armées, ce sont les guides que l'exécutif a donné à nos armées pour sa remontée en puissance. Et c'est ça, en fait, que la semaine prochaine, l'Élysée va essayer de mettre d'incarner. Et c'est ce que j'appelle, c'est à mon avis ce qui est le legs politique de Macron. C'est-à-dire Macron va vouloir dire voilà mon héritage, une armée plus forte, plus innovante, et une armée en mesure à la fois de réassurer l'Ukraine comme je l'avais promis, comme je m'y étais engagé. Et c'est moi, faut-il comprendre en substance, et c'est moi qui a été à l'origine de cette évolution, on pourra y revenir, et d'autre part, une armée désormais dissuasive face à l'Est, en capacité de se déployer si d'aventure le Kremlin décidait de renouveler son test stratégique ailleurs qu'en Ukraine, alors qu'on nous explique que depuis des semaines, on nous explique que la Russie en fait est en train de ralentir fortement en Ukraine. Ce matin, dans le Figaro, il y avait un papier très intéressant du correspondant du Figaro en Russie, expliquant que la fatigue de guerre, j'en ai parlé la semaine dernière, s'installait en Russie. Mais toujours est-il que pour l'exécutif français, et d'ailleurs pas que pour lui, pour ses deux autres partenaires essentiels, que sont le chancelier Friedrich Merz en Allemagne et l'Européen à 100%, la Grande-Bretagne, alors c'était jusqu'à il y a quelques jours Keir Starmer, mais celui-ci s'est fait sortir, ces deux partenaires-là, et avec Emmanuel Macron, mettaient en avant ces deux lignes rouges. Et c'est ça que l'on va voir, je pense, enfin que que le défilé doit nous montrer. Et je vous rends la parole, mais juste pour terminer, je le sais que vous êtes impatient. Et pour terminer, on peut sourire, c'est la dernière, Richard. Et pour terminer, en fait, ceci n'exclut pas quelque chose de factuel, c'est que nous assistons, et de manière objective, rationnelle et sans débat, nous assisterons au défilé d'une armée qui réellement est en pleine transformation et qui est passée entre 2017 et aujourd'hui de la période de l'opération réparation des dividendes de la guerre à l'opération réarmement.
Alors, cette opération réarmement, c'est effectivement l'idée de ne plus être une armée échantillonnaire, pour reprendre un terme employé par les différents chefs d'état-major, mais au contraire, une armée avec une profondeur de gamme, en quelque sorte. Dire, voilà, c'est pas juste quelques régiments d'élite, quelques armements d'élite, mais au contraire, plus d'hommes, plus de troupes, plus de casernes, plus de matériel. Et cela dit, on le soulignait la semaine dernière à cette antenne, si les décisions avaient été intelligemment prises par Emmanuel Macron au fur et à mesure qu'il les avait annoncées, on ne serait pas là aujourd'hui en 2026 à expliquer que l'armée est en train de se réarmer. On serait en train d'avoir profité depuis 2022 de véritables investissements qui fait qu'il y aurait déjà plus de casernes, déjà plus d'hommes de troupes, déjà plus de chars, plus d'avions, plus, etc. Donc, Emmanuel Macron veut mettre en scène une armée rénovée, mais là, pour le moment, la dernière LPM, c'est juste, une fois de plus, le fait de combler tout ce qui avait été auparavant, était de l'ordre de la variable d'ajustement, puisqu'on coupait régulièrement dans les budgets militaires et sans pour autant se dispenser d'envoyer l'armée à droite et à gauche sur les théâtres d'opérations extérieures, creusant une fois de plus le déficit, entre guillemets, de l'armée et du budget militaire. Donc, Emmanuel Macron a-t-il réellement réussi à reconstituer une armée ou, pour le moment, est-ce encore un vœu, une perspective ?
Alors, vous avez raison, Richard. On ne peut s'empêcher, on ne peut s'empêcher de mettre en exergue, face au message qu'Emmanuel Macron envoie, puis on reviendra sur le fond du message, la démission du général de Villiers en 2017, celui-ci lui disant dès 2017, monsieur le jeune président, profitez-en pour mettre le paquet sur nos armées qui à la fois sont au bord de la rupture en raison de ce modèle échantillonnaire désormais à l'os, mais aussi parce que nous, militaires et stratèges, nous observons le monde qui bouge et nous prédisons, nous anticipons en fait le retour des États-puissances et le retour en fait de la force pour régler les problèmes plutôt que le droit. Et c'est effectivement ce discours qui a été mal reçu par ceux qui entouraient Emmanuel Macron à l'époque, et en particulier par un homme qui s'appelle Gérard Darmanin, qui à l'époque était ministre du budget et qui dont on sait aujourd'hui qu'il a flingué directement le général de Villiers et qui a été lâché en public, comme chacun le sait aujourd'hui, par Emmanuel Macron. Donc effectivement, il y a au moins un quinquennat de perdu. Et c'est ce qui d'ailleurs fait dire à son successeur, le général Fabien Mandon, l'actuel chef d'état-major des armées, qui l'a fait dire devant les sénateurs ces dernières semaines à l'occasion du débat sur l'actualisation de la loi de programmation militaire qui planifie en fait les crédits et les commandes pour les armées, qui lui a fait dire il existe un risque de décrochage de la France vis-à-vis de l'Allemagne, étant donné en fait l'écart de budget. Alors, et là je réponds à votre... Donc vous avez raison, que de temps perdu. Mais en même temps, 2027 et 2017-2027, 10 ans, et les chiffres sont factuels, en 10 ans, le budget consacré chaque année aux crédits militaires, aux armées, aura doublé. Donc ça, c'est une réalité aussi. Donc on a effectivement du temps perdu et on a également une réalité, c'est une remontée en puissance des budgets. Et ça, évidemment, les militaires sont les premiers à s'en féliciter. Et la limite, en fait, de cette évolution Allez-y.
Non, je vous en prie.
Pardon. Et la limite de cette évolution chiffrée, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est le delta, malgré ce retour à bonne fortune, le delta entre l'effort budgétaire français et l'étalon européen, à savoir l'Allemagne, eh bien ce delta augmente, puisque en 2027, pour être précis, le budget annuel des armées sera à peu près de 63 milliards d'euros. Il était de un peu plus de 32 milliards il y a en 2017, 10 ans auparavant. Mais en 2027, le budget allemand sera, lui, tout compris, à peu près de 108 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un delta. Et ce delta, il est d'autant plus, impactant, que je rappelle à vos auditeurs, que la France a un atout majeur qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Cette dissuasion nucléaire, elle est en pleine transformation, modernisation et même consolidation, puisque le 2 mars dernier à Lille Longue, le président Macron a annoncé qu'il allait augmenter le nombre de têtes nucléaires dans les arsenaux français pour mettre en place ce qu'il appelle la dissuasion élargie. La dissuasion élargie, c'est le fait que la France a invité une dizaine de capitales européennes à intégrer à différents degrés le parapluie nucléaire français. On pourra revenir si vous voulez sur ce sujet-là, mais en schématique, c'est ça. Et la dissuasion, le budget consacré à la dissuasion, la rénovation des vecteurs, les sous-marins nucléaires de nouvelle génération, les armes de nouvelle génération, c'est à peu près, les chiffres sont classifiés, mais le pourcentage par rapport à l'effort de crédit annuel, c'est à peu près 13%. Donc 13%, on est dans les 7-8 milliards, si vous voulez, à peu près de mémoire. Bon, bien, c'est autant d'argent que l'Allemagne n'a pas à dépenser pour sa dissuasion, puisqu'elle est sous le parapluie américain et qu'elle consacre à sa dissuasion conventionnelle. Et donc cet écart, il est absolument massif. Maintenant, pour essayer d'être assez nuancé et équilibré, il y a aussi l'argent ne règle pas tous les problèmes. Il y a aussi l'investissement dans les hommes et les femmes qui arment en fait les unités, les équipements, etc. Et de notoriété publique, en fait, il y a un véritable problème structurel en Allemagne. Les armées allemandes ont un problème structurel pour recruter et fidéliser des soldats, ce qui n'est pas le cas de l'armée française, qui de surcroît emploi ou solde des hommes et des femmes qui ont sédimenté une expérience et des compétences sur les théâtres d'opérations extérieures, une armée qui est aguerrie à l'esprit guerrier, comme diraient les militaires, mais également qui sait ce qu'est le combat, y compris perdre des hommes au combat, ce que l'armée allemande évidemment a oublié depuis de très nombreuses années. Donc vous voyez, il y a une comparaison assez subtile à faire entre les différents jalons en fait qui illustrent cette remontée en puissance en Europe. Jusqu'à présent, l'armée française demeurait la première d'Europe, mais aujourd'hui, il y a une course au leadership stratégique en Europe. Il y a globalement trois capitales qui font la course en tête. Traditionnellement, historiquement, la France, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et celle-ci, aujourd'hui, est challengée à la fois par Berlin, mais aussi par la Pologne, d'une certaine façon, dont l'effort de remonter en puissance est absolument considérable.
Et, 5% Berlin, du PIB.
Oui, c'est... Alors évidemment, le PIB est moins élevé qu'en masse que le PIB français ou allemand, mais c'est considérable. Varsovie, qui a surtout l'intention de tailler des croupières au retour du leadership allemand en Europe de l'Est, mais pas seulement. Et ça, c'est le vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, maintenant que j'ai posé le cadre en fait de comparatif, si vous le voulez bien, je vais donner quelques chiffres quand même qui illustrent le fait que depuis 2022, véritablement, les choses, l'opération réparation s'est accélérée et on est passé à l'opération réarmement. Au mois de mai et juin, le Parlement a discuté, débattu, puis adopté le 1er juillet dernier, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui, non, même pas la semaine dernière.
Le 1er juillet, c'est demain, juin. Mais...
Voilà, fin juin, la semaine dernière. A adopté l'actualisation en fait, de la loi de programmation militaire, cette loi cadre sur 6 années qui avait été votée en 2023 pour les années 2024-2030 et qui consacrera donc à partir de l'année prochaine, entre 2027 et 2030, la fin de cette loi de programmation, 36 milliards d'euros supplémentaires pour la remontée en puissance des armées. Alors 36 milliards, c'est quand même très important. Cela permet en fait de faire face aux urgences et aux trous qui sont absolument cruciaux si d'aventure nos armées étaient engagées demain matin, puisque c'est la mission qu'elles ont reçue de pouvoir y répondre, si elles étaient engagées demain matin, par exemple face à l'Est, dans une mission de dissuasion, voire plus. Et dans ce cadre-là, le référentiel aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Le choc, en fait, entre deux armées de même à parité, en quelque sorte, puisque l'armée ukrainienne bénéficie du soutien européen, ce qui la met un peu à parité avec l'armée russe. Et dans la perspective de ce choc, il manquait à l'armée française un certain nombre d'outils, de briques, qu'elle est en train de récupérer de manière dans un mécanisme d'urgence. Alors c'est d'abord la récupération en fait des structures qu'elle avait abandonnées en sortant de la guerre froide. Par exemple, la concrétisation d'une véritable division de combat, la réactivation d'un corps d'armée avec son état-major. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont basées à Lille. Cette capacité en fait à mettre en œuvre sur le terrain l'équivalent d'une division qui serait en fait l'un des éléments avancés et structurants d'une force européenne de coalition qui serait elle-même commandée par un état-major de type corps européen qui serait fourni par exemple par la France. Voilà un peu le changement auquel on assiste aujourd'hui. Derrière ces structures, il faut évidemment des équipements. Alors les hommes, on les a. Et c'est pour ça d'ailleurs que globalement, vous disiez plus de troupes et plus de casernes. Justement, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on passe à l'étape plus d'équipements, ou en tout cas, on complète les équipements et les modes, enfin les équipements qui manquaient pour être complets face à ce type de menaces. C'est par exemple les feux dans la profondeur qui permettent de frapper l'ennemi beaucoup plus loin qu'auparavant, puisque le champ de bataille est plus transparent, donc chaque adversaire éloigne ces objets cruciaux de la ligne de front, si vous voulez. Donc il faut aller chercher encore plus loin les points cruciaux de l'ennemi. L'inverse, à savoir cette capacité à arrêter avec de la défense antiaérienne les projectiles ennemis de type missile, c'est exactement ce qu'on observe en Ukraine. Donc cette défense antiaérienne, par exemple, on peut citer un élément concret, les fameux missiles SAMPT, qui sont les batteries antiaériennes SAMPT, qui sont construites dans un partenariat franco-italien. Pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est l'équivalent des Patriotes américains dont on parle beaucoup, mais en beaucoup mieux. En fait, ils fonctionnent beaucoup mieux que les Patriotes américains, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter américain pour avoir de la haute technologie, c'est vraiment un exemple très intéressant. Donc ça, ces 36 milliards vont permettre de multiplier ce type de batterie. Alors ça, c'est le must, c'est la couche la plus haute. Mais on descend dans la défense antiaérienne jusqu'à, par exemple, le retour et la multiplication des canons antiaériens, une arme de papa, mais qui montre son efficacité quand vous devez faire face à une pluie de drones, ces petits objets qui volent assez peu vite, qui sont très peu coûteux, mais qui font d'énormes dégâts. Voilà un exemple des urgences qui vont être financées, par exemple, par ce surcroît de crédit. On peut prendre un deuxième exemple très intéressant et qui est dans l'actualité, c'est l'accélération en fait du programme qu'on appelle le Rafale au standard F5. Alors tout ça, c'est du chinois pour nos auditeurs. En fait, c'est très clair. Le Rafale est un avion multirôle qui est bardé d'électronique, d'armement. Et en fait, régulièrement, il faut rehausser la capacité de ses de son emport, la capacité de ses de son électronique, de ses armes, pour faire face en fait à l'ennemi qui lui aussi se renforce. Et le dernier standard qui a été étudié dans les usines de Dassault, le fabricant de l'appareil, c'est le standard F5, donc qui n'est pas encore en service et qui consiste, sans rentrer dans les détails, notamment à équiper ce Rafale d'un moteur beaucoup plus puissant qui lui permettra d'aller plus loin et d'emporter plus de charges utiles. C'est un point important à deux titres. D'une part, pour que le Rafale puisse rester compétitif à l'exportation face aux appareils américains. A priori, à la fin de l'automne, on devrait avoir de bonnes nouvelles sur l'énorme contrat des 114 Rafales que Dassault va fournir à l'Inde, puisque les négociations sont entrées dans la phase définitive. Je ferme la parenthèse, mais c'est aussi une réponse à l'échec attendu du fameux programme franco-allemand SCAF, qui était le programme de conception d'un avion du futur, en fait un avion plus précisément d'un système aérien du futur qui devait comporter un avion, mais aussi des plateformes piloté depuis la Terre ou depuis un autre avion, donc des plateformes automatiques, si vous voulez, des drones, voilà, et mais également par exemple un cloud de combat, donc un système en fait intégrant permettant d'intégrer tout un tas de données, de partager ces données, qui soient fermées et sécurisées. Bon, cette plateforme, enfin ce projet franco-allemand voulu par Emmanuel Macron comme le symbole en fait de l'Europe de la défense, dont le pilier aurait été l'axe franco-allemand de défense, s'est effondré comme un certain nombre d'experts s'y attendaient il y a quelques semaines, puisque l'Allemagne a décidé de sortir définitivement de ce programme. Le sujet était à la fois compliqué et simple, c'est que seul en Europe, Dassault sait faire un avion de combat de A à Z moderne et compétitif. Et l'idée était, dans ce programme, d'y associer Airbus Defence and Space, qui est sous la coupe allemande. Et cette entreprise, avec l'aide de Berlin, voulait récupérer une énorme part du gâteau, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui aurait consisté pour Dassault à donner gratuitement tout son savoir-faire, qui est évidemment un savoir-faire de très haute technologie, et il n'y avait aucune raison de leur donner. Dassault freinait, le système s'est effondré, et la loi de programmation militaire révisée par les parlementaires ces derniers jours va accélérer l'arrivée du Rafale au standard F5. Voilà un peu pour... J'ai pris un ou deux exemples, mais...
Il nous reste 40 secondes.
40 secondes. Le débat se poursuit néanmoins sur la vitesse de remontée en puissance de ce réarmement, puisque les sénateurs avaient voulu ajouter 14 milliards supplémentaires aux 36 milliards. Ils ont été déboutés. Ils voulaient simplement ces 14 milliards pour combler les manques sur lesquels tous les experts sont d'accord. Plus d'avions, plus de régiments et plus de frégates. Cela attendra encore.
Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Et donc, à la rentrée, c'est-à-dire à la dernière semaine d'août, pour continuer ces analyses internationales passionnantes.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite.
Et nous retrouvons tout de suite Victor Robert pour sa chronique hebdomadaire, la dernière de la saison. Victor, aujourd'hui, vous vouliez parler de la fraternité Saint-Pidis qui va sacrer 4 évêques à Écône en Suisse demain. Pourquoi est-ce si important ?
Cet événement va avoir des conséquences parce que sacrer 4 nouveaux évêques sans mandat pontifical, c'est quelque chose de grave donc qui va faire appel à une excommunication. Et c'est aussi donc le maintien d'une division au sein de l'Église qui date depuis déjà 1988. Alors d'un côté, on pourrait dire rien de nouveau, puisque ça fait déjà plus de quasiment 40 ans que cela, quasiment plus de 30 ans en tout cas que tout cela dure, et que ce phénomène reste marginal au sein de l'Église, puisque même si l'affaire des Saint-Pidis a beaucoup de prêtres et que même on pourrait dire le courant traditionnel au sein de l'Église est important, ça reste un courant finalement assez marginal au sein de l'Église entière. Mais néanmoins, c'est un courant majeur en France qui touche beaucoup de familles, de nombreux fidèles, et donc ce sera forcément un drame pour de nombreux prêtres, pour de nombreux fidèles et des divisions qui continuent de s'entretenir, de se maintenir sur la longue durée.
Et alors, quelles ont été les dernières réactions, les prises de parole sur ces sacres ?
Alors, sur la phrase de Saint-Pidis, si on fait le bilan de tout ce qui a été dit, il y a eu d'abord donc l'annonce de ces sacres, la justification selon l'état de nécessité. Il y a eu plusieurs rappels expliquant que les propositions de négociation du Vatican étaient, d'une certaine manière, une sorte de prise d'otage et n'étaient pas vraiment des négociations, mais plutôt un ultimatum. Et il y a eu, la phrase Saint-Pidis a redéclaré qu'elle reconnaissait l'autorité du pape, que cet acte ne voulait pas être un acte de désobéissance, mais un acte de survie pour le salut des âmes. Du côté du Vatican, il y a eu le souverain pontife, alors qui en a parlé dans des conditions toujours un petit peu particulières, puisque ce n'était pas des déclarations vraiment officielles, c'était des réactions face à la presse, mais disant voilà, qu'il allait peut-être faire un ultime appel à Saint-Pidis, qui n'a toujours pas été fait jusqu'à aujourd'hui, et disant que les condamnations auraient lieu si on ne reconnaissait pas le Concile Vatican II, parce qu'il fallait aller de l'avant. Et puis du côté des cardinaux, on a eu donc, le cardinal Sarah, qui a essayé d'appeler à Saint-Pidis à prendre finalement la crise de l'Église comme une épreuve personnelle qu'il faut accepter. On a eu le cardinal Zen, qui est un cardinal en Asie, à Hong Kong, qui lui a considéré que la phrase Saint-Pidis finalement était dans une certaine forme d'état de légitimité pour faire ses sacres. Et puis le cardinal Müller, qui a rappelé lors du consistoire qui avait lieu le week-end dernier à Rome, a demandé justement à ce qu'on appelle un peu solennellement la phrase Saint-Pidis à ne pas sacrer donc ces nouveaux évêques, et puis également à faire en sorte que on puisse recréer donc la commission ecclésiadei ayant été la réponse qui avait été faite en 1988 face au sacre, donc permettant à tous les fidèles et prêtres qui ne suivraient pas la phrase Saint-Pidis dans ces sacres, et bien de pouvoir continuer à avoir un statut, on pourrait dire régulier, reconnu par Rome. Néanmoins, bien sûr.
Non, pardon, mais juste pour conclure, en une minute, Victor Robert, comment est-ce qu'un catholique doit aujourd'hui se positionner justement par rapport à ces 4 nouveaux sacres ?
Eh bien, je pense que ce n'est pas à nous, laïcs, de prendre position. Je pense qu'il faut faire preuve un petit peu d'humilité parce que c'est un débat sans fin et qui ne suscite finalement que des divisions et souvent des paroles un petit peu vaines et stériles. Je pense que notre devoir de laïc, c'est déjà de maintenir la porosité entre les différentes communautés dans l'Église. C'est-à-dire que je pense qu'il est important que, quelle que soit la communauté à laquelle on se rattache pour essayer de suivre les sacrements, notre enseignement, etc., eh bien, il faut être capable de parler avec les différentes communautés. Et puis, également, j'invite en particulier tous les fidèles à prier pour l'unité de l'Église, prier pour tant la phrase Saint-Pidis que pour le pape, que pour l'Église universelle, afin que nous puissions surmonter cette épreuve et en nous rappelant que l'Église a toujours connu des épreuves et des divisions et que l'objectif, c'est justement d'aller de l'avant en essayant de ne pas entretenir stérilement des divisions.
Merci beaucoup, Victor Aubert. On se quittera sur ce mot. Prier pour toute cette église catholique sous toutes ses formes. Merci beaucoup. On vous retrouvera l'année prochaine à la rentrée, donc fin août. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonnes vacances.
Merci beaucoup, cher Alexandre.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Gilles Brochard, c'est votre dernière revue de presse de cette saison. On vous retrouvera plus tard, fin août pour les prochaines.
Bonjour Alexandre.
Oui, effectivement, bonjour.
Bonjour Franck et bonjour chers auditeurs.
Bonjour Gilles.
Alors, on a l'impression que depuis un an, ce sont les mêmes thèmes qui sont relayés dans la presse.
Oui, à commencer par la guerre en Ukraine qui dure, dit-on, plus longtemps que la grande guerre patriotique, celle de Russie 41-45. Ainsi, un grand article sur deux pages paru dans le Figaro s'intitule « Vladimir Poutine face au mécontentement croissant de la société russe ». Alain Barluet raconte la lassitude des Russes qui attendent que leur président signe un accord de paix. Alors désormais, avec l'intensification des frappes ukrainiennes sur les sites énergétiques, presque toutes les régions russes sont affectées par les problèmes d'approvisionnement en essence. Dans certaines localités, les services de bus ont dû être réduits et les poubelles ne sont plus ramassées. Bien sûr, ces frappes créent des problèmes, a dit Vladimir Poutine dimanche en concédant du bout des lèvres une certaine pénurie. Sans cesse bombardée, la Crimée virtuellement sous blocus, le train s'arrête au pont de Kerch pour rejoindre Simferopol ou Sébastopol. Il faut emprunter des bus bondés ou des taxis hors de prix. En juin, les réservations touristiques ont déjà chuté de 40 à 60%. Et si la situation ne se rétablit pas rapidement, la saison sera ruinée, se lamente une habitante de la péninsule jointe par téléphone. Et plus encore, Lev Gutkov, l'ex-directeur et actuel directeur scientifique de l'Institut Levada, qui produit en Russie les enquêtes considérées parmi les plus fiables, confie « D'un côté, la peur s'est accrue. De l'autre, on observe une montée de l'agressivité envers le camp adverse avec des demandes croissantes d'intensification des frappes sur l'Ukraine et d'utilisation d'armes plus puissantes, voire nucléaires. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
Et toujours à l'international, cette fois en République démocratique du Congo, le virus Ebola ne cesse de faire des victimes.
Oui, malheureusement, comme le relate le Parisien, l'épidémie progresse toujours et le pic n'a pas encore été atteint. Au 25 juin, raconte le correspondant du Parisien, plus de 1203 cas confirmés, 321 décès ont été recensés depuis la déclaration de l'état d'épidémie le 15 mai. Il s'agit aujourd'hui de la troisième plus importante sur les 43 enregistrés au niveau mondial depuis la découverte du virus en 1976. Il n'existe aucun vaccin ni traitement contre ce variant d'Ebola, même si des mesures de prévention ont eu lieu un peu partout dans le pays et que la létalité est passée de 60% à presque 25% aujourd'hui, s'y ajoute l'insécurité. Plus de 900 000 déplacés fuient les groupes armés et bougent constamment dans la province d'Ituri. Plus encore, pour beaucoup, les gens refusent d'aller à l'hôpital public parce qu'ils pensent qu'on y est maltraité. Et malgré leur coût, ils préfèrent souvent les cliniques privées, jugées plus dignes et plus attentives aux besoins des patients. Face à cette désaffection dans le public, le ministre de la Santé a annoncé la prise en charge des soins, ce qui ne suffit pas à convaincre Patrick, qui déclare « Il n'existe pas de vaccin contre le variant. Pourquoi irais-je à l'hôpital? Ce sont des miroirs. Si je suis malade, je préfère me soigner chez moi plutôt que d'aller y attraper Ebola. » Voilà, c'est à lire dans le Parisien.
Et puis vous finissez avec la fête du cinéma qui a lieu jusqu'à mercredi dans toute la France. Chaque séance est fixée à seulement 5 euros.
Oui, alors le Parisien s'interroge à propos justement de la bataille de Gaulle qui est en deux parties, soit plus de 5 heures de projection. Peut-on voir la suite avant le premier ? Avoir manqué le premier film n'empêche pas de comprendre la suite, répond Yves Jéglet. Alors, mais je vous donne mon conseil personnel, puisque Vous pouvez aller voir quand même la première partie, hein, L'âge de fer, qui est 1940-42, avant la bataille de Gaulle, 43-44. Prenez le temps, vous ne le regretterez pas. Alors, je suis allé voir hier, Alexandre, la seconde partie, qui est tout aussi émouvante, magistralement filmée, aussi bien que la première, avec la révélation d'un Nils Schneider en Leclerc, général vaillant, courageux, plein de panache, avec inscrit sur ses chars ce fameux slogan peu banal « Mort aux cons ». Et Thierry Lhermitte incarne le général Giraud qui, après le débarquement allié en 1942, remplace l'amiral Darlan, assassiné à Alger. Alors il devient commandant-chef civil et surtout un pion dans la main des Américains. On assiste alors à un duel fratricide, jubilatoire je dirais, entre le général de Gaulle et son ancien supérieur en Lorraine, sous les yeux médusés de Churchill et d'Eisenhower. Le réalisateur Antonin Baudry réussit magistralement à montrer la tension qui monte crescendo entre le général Churchill et les Américains qui veulent imposer une monnaie une fois la France libérée. et pire, un découpage de la France selon la volonté de Roosevelt. C'est toute cette quête de souveraineté, de liberté que met en valeur ce film qui restera dans les annales pour la reconstitution des batailles et l'action menée par Jean Moulin à la veille de la création du Conseil national de la Résistance. Jean Moulin, joué par le remarquable acteur Félix Kizil.
Et un dernier mot pour
oui,
finir.
Oui, un dernier mot. Il y a juste un an, le 3 juillet dernier, je vous citais une phrase de Paul Morand, extraite de son livre « Bain de mer, bain de rêve ». « Quand je pense à des journées de bonheur parfait, ce furent presque toujours des journées d'été. Autant dire qu'il y avait quelques bains là-dedans. Une fois n'est pas coutume, je vous souhaite le plus beau des étés, mon cher Alexandre et chers auditeurs. Pourquoi pas au bord de la mer, comme pour conjurer le sort de cette canicule exaspérante. Et je vous cite un livre à lire. C'est Les mots qui font peur.
Oui.
C'est un petit livre qui vient de sortir à Encre de nuit. Mmh. C'est signé Mariette Darry Grand. Et dedans, il y a tous les mots qui font peur, comme le chaos, comme la guerre, comme la submersion, et le fascisme ou retraite.
Merci,
voilà.
Merci Gilles pour ce conseil. On vous dit bien sûr à l'année prochaine pour la prochaine saison à partir de fin août. Merci.
Zone libre.
Et tout de suite, on passe à la plus importante de toutes les zones libres de cette année. Il s'agit de celle, bien sûr, du bêtisier. Bêtisier animé par Louis Rigaudière. Alors, Louis, vous nous avez concocté...
Bonjour Alexandre, merci Gilles
donc,
Rochard.
Tout ce qu'on a fait de meilleur ou de pire, finalement, pendant cette année.
Et oui, déjà, ça passe très vite, hein. Ça y est. Derniers instants de cette saison, Ligne droite, 5 saisons. 5 saisons que Ligne droite décrypte, dénonce et claire ce que les autres préfèrent taire. 5 saisons de travail, de rigueur, d'engagement, sans concession. Mais derrière cette ligne éditoriale qu'on assume avec fierté, il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Une équipe, des humains, avec leurs imperfections, leurs fous rires, leurs petits accidents de direct, qui font aussi, à leur manière, l'histoire de cette émission. Alors avant de refermer cette saison, permettez-moi ce moment de mémoire, en forme d'hommage à ceux qui font vivre Ligne droite jour après jour. Commençons d'abord par les lapsus. Parce que la langue, parfois, eh bien, elle a son propre agenda. Adèle, que nous saluons évidemment, là où elle est, a eu à traiter une information vraiment pas évidente à formuler, à coup de AA- et AA+. Je vous laisse écouter.
En 2013, eh bien, la notation Fitch de la France passe de AAA à... Ah, ça fait beaucoup de A, excusez-moi.
Ça vous fait rire, surtout, on a l'impression.
Vous bégayez, Adèle. Ah non, mais de AAA, donc 3A, AAA+, et dégringole ainsi jusqu'à arriver en 2025 AA+.
Et oui, c'est pas vraiment pas évident pour sa défense. Et de son côté, Alexandre est encore tout ébloui par le dernier film sur Charles de Gaulle au cinéma, au point qu'il aime inclure des Gaules un peu partout pour ponctuer ses phrases.
Un certain Zoran Mamdani. Et dites-vous qu'aujourd'hui, il inspire la gauche radicale française, pardon.
Oui, c'est pas passé loin ça.
Hein. Ouais. Et on l'a même carrément entendu.
Oui, carrément, même. Merci. Et Maïlis, quant à elle, s'est visiblement permis un jeu de mots des plus choquants et honteux que toute l'équipe condamne, évidemment, avec la plus grande fermeté.
Face aux LGBT, des maires assument.
Oui, à Fâche-Tuménil et à Elne, les nouveaux maires ont pris dès leur arrivée la décision de retirer les symboles LGBT.
Ça vraiment, Maïlis, c'est honteux. Ah, c'est, je condamne absolument. C'est n'importe quoi.
C'est
et puis, il y a bien sûr Richard de Sèze, que vous allez entendre de très, très nombreuses fois ce matin.
Non.
Et vous allez découvrir que les prénoms et les noms de famille ne sont pas son fort.
On peut espérer un procès en 2027. Bali Bagayoko, Bali Bagayoko, Yann Bali. c'est génial. Alors, j'aurais voulu la faire, je n'y serais pas arrivé.
Bon, très bien.
Voilà, que tous les auditeurs de Radio Courtoisie se rassurent, il y a un bêtisier qui est prévu mardi prochain. si jamais Louis Rigaudière n'a pas prévu d'y mettre ça, je serais très déçu.
Message reçu. Hein.
Merci Louis.
Oui, Richard aime beaucoup fusionner les prénoms et noms d'autres personnes.
Tout de suite, nous accueillons, évidemment, Éric Alloncle.
Ligne droite, débattons-en.
C'est pas du tout Éric Alloncle, c'est Éric Morillot. Voilà, qui nous parle de la commission Alloncle. Bonjour Éric Morillot.
Bonjour Richard de Sèze.
Faut savoir quand même que Richard fait ça même hors antenne. Hein.
Oui, oui tout,
que
le
même
temps,
nous,
tout le temps.
Ça
non,
fait
mais c'est,
quoi,
voilà.
un an et demi que je travaille ici. Maïlis, ça fait 2 ans.
Ouais.
Toujours pas.
C'est, mais il le confesse lui-même. Hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive systématiquement. Et on pourrait se dire que la présence de l'invité en plateau perturbe la concentration de Richard. Mais non. Même quand l'intervenant est en zoom, Richard reproduit encore la même erreur.
Merci beaucoup, Leonardo Orlando.
Merci
restez avec nous et nous écoutons Frédéric Poulin. Allez,
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors, bonjour Alexis, je suis absolument navré. J'ai un copain qui s'appelle Frédéric Poulain qui nous écoute avec un peu de chance.
Voilà, donc ça m'arrive aussi. Ouais,
bah, donc je pensais fortement à lui. Bonjour Frédéric.
Il n'y a pas qu'avec les prénoms. Les noms de villes sont parfois rebaptisés de façon très inattendue.
Debout les Français quand l'insécurité gangrène les villes bourgeoises avec Émilie Ria, candidate à Macron, à Menton. Je suis obsédé, excusez-moi.
Et même lors de son Restons courtois hebdomadaire, Richard parvient à confondre non pas les prénoms, non pas les noms de villes, mais carrément les émissions qu'il anime lui-même.
Bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne droite, la...
Bah non, pas du tout, c'est le matin.
Bienvenue dans Restons courtois, ça m'apprendra à faire des journées trop longues. Bienvenue dans Restons courtois, l'émission du soir de Radio Courtoisie.
Mais vous nous avez jamais fait planche casse des bulles en matinale, Slate.
Tout pas encore permis. En tout cas. Mais je vous rassure, ces désagréments n'arrivent pas qu'à Richard. Pas plus tard qu'hier, Franck a trébuché sur le nom de Nicolas Pouvremonti.
Non, je le passe pas celui-là.
Franck,
bon, d'accord. À 17h30, je vous le disais, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet, le rendez-vous avec Nicolas Pouvreau-Monti, pardon, immigration, quel impact sur la Nouvelle-France.
Ceci dit, c'est très très drôle ça. Ah, ouais. Et passons justement maintenant à la régie, ce monde mystérieux que les auditeurs ne voient jamais, mais dont les yeux des intervenants sont rivés dessus chaque seconde, là où les boutons ont parfois la fâcheuse tendance à ne pas être actionnés au bon moment. Ce fameux bouton, placé devant le présentateur et qui permet de discuter avec le réalisateur sans être entendu par les auditeurs, ça fait beaucoup de rimes, Alexandre a dû subir ce problème technique non pas une, mais deux fois cette saison.
Et pas mal de sénateurs ont dû ouvrir les yeux encore une fois pendant les débats à l'Assemblée nationale sur le radicalisme des promoteurs de l'euthanasie et vont pas forcément entrer dans le
peut-être
jeu
parce qu'il a mon numéro, donc peut-être que...
de faire un amendement.
Donc ensuite, vous avez effectivement tout ce qui est...
Moi aussi, j'ai eu. Allez-y, je vous en prie.
Alors c'est Grégoire Pupac et Yann Valéry.
Et encore, je pense que vous l'avez mis que deux fois, mais le nombre de fois où j'ai appuyé sur ce bouton, voilà, ici, voilà. Par inadvertance, c'est absolument effrayant.
Ah oui, c'est terrible, vrai. Surtout qu'à l'époque, ça déréglait les plans de caméra. Ouais. On a résolu ce problème, mais je vous ai maudit tellement de fois. Technique.
En tout cas, pour les bêtiser, ça m'arrange.
Je l'ai maudit des dizaines de fois.
En tout cas, rassurez-vous, Richard, toujours lui, s'est aussi trompé de bouton à un moment donné.
Le fait qu'on soit déjà en train de prévoir dans France Télévisions que le rapport ne sorte pas, a-t-il étonné les gens de France Télévisions? A-t-il scandalisé un certain nombre du personnel? Ou au contraire, chacun s'est dit satisfait que tout puisse enfin être mis sous l'été noir?
Non, le personnel, il est scandalisé. Quand vous allez à France Télévisions, la première des réactions, c'est...
Vous n'aviez pas posé cette
arriver.
Question
Comment ?
Non, excusez-moi.
Non.
Alors, je ne me suis pas trompé sur le bouton. À un moment donné, ça ne marchait pas.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, c'est toujours ce qu'on dit. C'est la technique. Je la connais.
Et à ce petit jeu, même les meilleurs peuvent se faire avoir. Prenez Franck, par exemple. Malgré son immense expérience, il peut parfois faire des erreurs, comme envoyer une rediffusion pendant un direct. Et sur cette perspective inquiétante, je vous dis à la semaine prochaine, chère Liselotte.
À la semaine prochaine.
Merci.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous poursuivons avec Victor Robert, directeur général d'Académie Christiane.
Alors, pour expliquer aux auditeurs, peut-être, c'est que...
Excusez-moi, un enchaînement automatique qui m'a un petit peu perturbé.
Oui, non, mais c'est vrai que c'était assez perturbant.
Non, pour expliquer, là, en fait, la rediffusion a été diffusée une heure trop tôt, c'est ça?
Voilà, bien trop tôt, et pendant un direct, du coup, Liselotte s'est dédoublé.
Il avait hâte de rentrer, Franck.
Oui, bah, y a des fois, ça arrive, vous savez, on se lève très tôt, donc des fois, à 9h, ça y est, c'est fini, alors qu'il reste une heure.
Mais il n'y a pas que des problèmes de boutons ou de rediffusion, il y a aussi l'horloge. Outil indispensable que nous avons sous les yeux et qui permet de rendre l'antenne ni trop tôt, ni trop tard. Et malheureusement, parfois ça foire. Comme ici avec notre chroniqueur Jean-Yves Gana qui, à deux reprises, a été congédié bien trop rapidement.
Merci beaucoup Jean-Yves Gana pour ce plaidoyer vibrant en faveur de la chasse et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour parler gastronomie.
Je vous en prie. Au revoir Richard. Au revoir chers auditeurs.
Ah non, je le tiens encore. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, je vous lâche beaucoup trop tôt.
Mais j'ai l'habitude d'être congédié comme ça un petit peu rapidement. Ça fait depuis l'école que ça dure.
C'est vraiment, je suis navré.
Merci Jean-Luc Gana pour cette chronique. Je vous souhaite une... Ah bah non, il nous reste encore 4... Il me reste encore 4 minutes. Merci Arnaud.
Vous avez congédié systématiquement. Alors, est-ce que je fais des chroniques trop courtes ou je parle trop vite? Mais à chaque fois, merci. Et puis après, ah non, il reste du temps.
Bah oui, mais parce que je suis absorbée dans ce que vous nous racontez, Jean-Hude.
Ça doit lui arriver souvent parce qu'il a toujours sa réplique de prêtre.
Exactement. Hein. Mais voilà, il prend toujours tout avec humour. C'est ça qui est agréable avec Jean-Hude. Et généralement, quand on présente une émission, on éteint son téléphone. Du moins, on coupe le son. Une règle que Richard n'a pas suivie pendant un bulletin d'actualité.
Alors là, on est en train de faire du bêtisier.
Bah, voilà, je fais un bêtisier pour 2027. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon, attention.
C'est au Rassemblement National ou à l'UDR de prendre leurs responsabilités. À défaut, ils seront responsables du torpillage de cette commission. Je suis dédoublée ce matin.
C'est arrivé ce matin.
Non, pas encore. Il y a bien longtemps.
Si, on a eu la même chose ce matin où la sonnerie de Richard. On a une vidéo qui a été diffusée en direct pendant l'entretien.
Ça m'a complètement échappé. Dommage, j'aurais pu l'intégrer.
Non.
Et bien sûr, il y a parfois des éléments qui échappent à notre contrôle. Comme ici où Richard devait reprendre l'antenne après la diffusion d'un reportage qui s'est relancé automatiquement. Et pas de chance. La première phrase de cette extra vidéo est un peu déroutante à entendre, d'où le fou rire à peine contenu de Richard de Sèze.
Ligne droite, débattons-en.
Vous avez aimé le plug anal de...
Et donc... Mais non, j'étais censé être voilà, en plus interviewer la mère
frais.
Sans relancer le reportage.
C'est sans doute ça qui est le plus gênant, voilà, c'est qu'il y avait à la mère après juste après.
Il faut que ça arrive sur ce genre de sonore, évidemment, ça ne peut pas.
Voilà, vous pouvez en témoigner, Franck, voilà, les reportages
sont
tout seuls.
Ouais.
Non, mais c'est...
Ou alors c'est effectivement Franck qui a un pouvoir de nuisance effrayant.
Oui, bah ça je l'ai, c'est sûr, mais je m'en sers pas.
C'est sans doute le meilleur de la saison, en tout cas, merci Richard. Et comme on en a beaucoup parlé cette saison, parlons des Blancs. Non pas ceux que vous croyez, mais plutôt ces moments un peu hésitants, parfois gênants, et ça n'a pas loupé. Car dès la première matinale, Adèle Rosner a dû gérer cette difficulté.
Bonjour Liselotte, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors, nouvelle moins réjouissante puisque excusez-moi.
Vous avez passé un bon été, vous, Adèle, ça va, ouais.
J'ai commencé un très bon été. Ces retrouvailles m'ont perturbé.
Et ça, c'était dès la première matinale de la saison, donc vraiment, Adèle, ça n'a pas loupé. Ou encore Alexandre, qui a dû se sentir bien seul au moment de terminer son décryptage, au point de se remercier lui-même.
Ça ouvre de joyeuses perspectives sur la paix dans le monde, tout ça. Et voilà, et c'était la fin de mon décryptage. Merci Alexandre de Galzin.
Mais il y a bien... Merci tous pour tout vous dire. On est en effectif réduit, donc Liselotte nous aidait en régie. C'est pour que nos auditeurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'une erreur.
Voilà. Pas du tout.
Et nous voici donc de retour avec Richard de Sèze, qui décidément nous aura tout fait cette saison. Sur les Blancs, Richard en est visiblement un adepte. Oui, parce que très souvent à l'antenne, ou hors antenne d'ailleurs, Richard marque parfois de très très longs silences au milieu de ses phrases avant de reprendre la parole. Ce qui surprend certains invités.
Voilà, vous avez... vous nous avez alerté, en fait, sur la manière dont l'éducation nationale était proprement en train de harceler l'école libre. Vous avez décidé de renoncer à une carrière...
Oh mon Dieu, c'est abominable.
Comment dire, des présentateurs des radios privées et des télévisions privées.
C'est dommage qu'on ait pas la vidéo, parce qu'on voit notamment Xavier Aymon qui est en face de vous faire des gros yeux, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude. Et ce qu'il faut noter aussi avec Richard, c'est qu'il est toujours pressé, parfois trop, au point de sauter certains jours.
Eh bien, merci beaucoup et à tous, rendez-vous lundi matin.
Non, c'est demain.
Non, mais rendez-vous lundi matin. Ah non, c'est vrai, on n'est pas vendredi, c'est dingue. Ah, j'étais drôlement pressé de partir. Rendez-vous demain matin.
À demain, Richard, à demain à tous.
Et la voix que vous venez d'entendre est celle de notre cher réalisateur du jeudi et du vendredi, Arnaud, qui, lors d'une émission hommage à Johnny Hallyday, s'est permis de nous chanter quelques notes.
Une chanson de 1978, qui n'est pas la plus connue, mais qui a quand même une certaine renommée, c'est « Elle m'oublie ». À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, Elle m'oublie, elle m'oublie.
Voilà. C'est arrivé, quand
voir, c'est arrivé il y a quelques mois déjà. Et c'est parce que
je regrette tant d'avoir manqué mais ça.
Ah bah c'était les vraies zones libres, ça. Hein.
C'était, oui. Non, c'était pas une zone libre. C'était une émission spéciale à Johnny Hallyday, mais on pouvait pas passer de musique à cause de YouTube. Et donc Arnaud.
Il faudrait faire ça. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur un chanteur, effectivement, et qu'on demande à Maëlys, Magda, tout le monde là, effectivement, de faire ça.
Surtout que si vous chantez mal, l'algorithme nous piégera pas sur YouTube. Donc ça a été le cas pour Arnaud. Il le chante pas si bien que ça, finalement. Moi, je l'embrasse quand même.
Et maintenant, les craquages et les improvisations. Parce qu'en début de saison, j'ai dû affronter avec Franck un problème technique lors d'une de mes chroniques. Et ayant été en première loge, je vous confirme que les secondes étaient très, très longues. Et il y en a un autre qui est monté au créneau pour défendre cette génération, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénot.
Moi, je trouve cette sortie scandaleuse. Voilà. Absolument scandaleuse. Mais elle est cohérente avec tout le reste. C'est-à-dire que l'angle d'attaque a été...
Un petit problème de machine. Bah, nous en étions au son numéro 7. Je vais vous le remettre avec toutes les excuses, bien sûr.
Allez-y.
L'électorat.
Il y a une question. Non, alors ça
c'est pas grave.
Redémarrage Windows.
Vous êtes sûr?
Allez, c'est parti,
on
enchaîne.
Quel son, du coup?
Et après, le son 8, du coup. Alors, le Henri Guénot 2, voilà, pour René Franck. Voilà, on y va? Et ce même, j'y vais. Alors, c'est ce même Henri Guénot a lui aussi le respect à géométrie variable. Ah, c'était non, mais vraiment, c'était pas évident.
Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que à chaque fois, vous me demandez 10, 15, 20 ou 29 sonores comme aujourd'hui, et il suffit qu'il y ait un petit dérèglement dans la liste et c'est la panique totale.
Exactement, donc voilà, là pour le coup, on s'en est plutôt bien tiré. Mais il y a des moments plus amusants qui ne relèvent pas de la technique, en tout cas pas directement. Comme ici où Richard de Sèze se lâche complètement lors d'une chronique.
Paula White, son conseiller spirituel, a commandé Manda Gazada Regayamanda Robokoto Kalamada Geze Geze Gede Mamama Bandala Bagaze Strike 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 Fire. Voilà, et donc tout de suite on a compris, effectivement. Je sais pas si vous avez déjà entendu Paula White parler en langue.
Ah non, mais c'était du groenlandais ce que vous nous avez
non,
fait.
Non, c'est de l'austronésien.
Austronésien, ouais, c'est bon à noter ça.
Et bah pourquoi pas.
Mais c'est authentique, j'ai vraiment cité Paula White.
Hein. Oui, non, mais c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Oui, parce que Richard aime les imitations et il nous l'a encore prouvé il y a quelques semaines avec André Malraux.
Entre ici, Fanfan Bérou, avec ton terrible cortège, avec tous les gouvernements que tu as soutenus et qui ont œuvré contre les Français, avec tous les avec tous les budgets que tu as votés et qui ont creusé la dette dont tu feins aujourd'hui de découvrir l'existence, avec tous les postes inutiles que tu as occupés, avec toutes les alliances douteuses que tu as formées.
On y croirait.
Ouais, c'est faire de Gaulle, pareil. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Bah, c'est le discours de Malraux au moment de la réception de Jean Moulin.
Exactement, voilà, et c'est très, très ressemblant, très proche en tout cas. Mais il y a encore plus étrange que des imitations de personnalités connues. Magda, Alexandre et Franck se sont par exemple amusés à imiter non pas des humains, mais carrément des animaux.
Magda, vous avez bien quand même un animal que vous savez imiter.
Malheureusement, il sera sûrement pas au parc de Beauval.
Bah, dites-nous.
Une petite poule.
Allez-y, une petite poule.
La poule, on y va.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, il y a quelque chose. Hein.
Il y a beaucoup de talent sur ce plateau. Oui.
Très bien. Et puis Franck, vous de votre côté
pour le cri de l'animal,
oui,
moi je peux faire le chien.
Allez-y.
Ouf.
Alexandre, vous, quel est l'animal que vous allez
dire? Non, écoutez, j'en ai peut-être un en tête que j'avais déjà fait à l'antenne. Hein. Je vous rappelle, c'est... Voilà.
C'est pas mal. Moi j'ai le Richard si vous voulez.
Allez-y. Oui.
Vous avez vu?
Merci beaucoup. Et écoutez, j'espère que Louis Rigaudière prendra cet extrait pour le diffuser sur les réseaux sociaux, surtout pas.
Message reçu encore une fois, bien sûr, je l'ai. Et après les improvisations et les imitations, il y a parfois des tensions. Voyant que ces deux invités étaient en train de discuter très tranquillement devant la porte du studio, Liselotte en est venue aux mains pour remettre un peu d'ordre dans son émission.
Ligne droite.
C'est ouf ça.
Le grand entretien.
On n'a pas l'image, mais dans l'image, on la voit vraiment s'énerver et taper très fort dans les mains pour essayer de faire.
D'ailleurs, ils sont venus tout de suite, les invités.
Ah oui,
là pas bronchés.
Ils ont vu le regard, ils ont tout de suite compris qu'il fallait un petit peu cadrer. Et ces désagréments arrivent lorsque nos invités sont en studio. Mais quand il s'agit de Zoom, les interférences sont parfois surprenantes, comme lorsque Richard interrogeait Aliette Espieux.
Êtes-vous heureuse de ce brevet de respectabilité décerné par un journal d'extrême gauche?
Bah écoutez, apparemment, c'est une vraie victoire. Avant 30 ans, j'ai eu mon article dans Tripresse, dans Libération.
Oula, oula, oula.
C'est déroutant. Et allez, pour terminer, je vous remets un coup de Richard et de ses trous de mémoire.
Non, on va terminer avec le dernier sonore.
Oui, mais justement, mais envoyez.
Ah, c'est celui-là, excusez-moi.
Oui, voilà, envoyez le bon. Voilà, un autre bêtisier, merci Franck. Allez, pour terminer, je remets un coup de Richard et de ses trous de mémoire légendaires sur les prénoms. La saison dernière, il nous avait offert une séquence magistrale où il se trompait 6 fois d'affilée sur le prénom de son invité, qu'il rebaptisait Bertrand Saint-Vincent. Même moi, je me trompe, au lieu de Bertrand Saint-Germain. Eh bien, pour cette saison, il a récidivé.
Bon, alors, les symptômes, on les connaît, Alexandre. Ah. C'est la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les douleurs abdominales, les troubles digestifs. Après 3 à 5 jours, plus rapidement parfois, la maladie évolue vers une insuffisance respiratoire foudroyante.
Petite grippette que vient d'attraper Gilles.
Gilles Brochard qui est en train de
nous quitter.
Voilà, c'est parfait. Existe-t-il un vaccin ? Pas encore.
Donc la maladie évolue vers une insuffisance respiratoire foudroyante.
Voilà, donc vous aurez entendu Gilles Brochard qui nous parlait de l'antivirus. Voilà, un petit quiproquo, voilà. Il en fallait bien, sur les symptômes. Et puis, au moment de lister les symptômes, se met à éternuer. Moment très suspect, en tout cas, pour une de ces revues de presse. Mais en tout cas, voilà.
Écoutez, merci beaucoup Louis Rigaudière, c'était évidemment excellent, on a bien profité. Simplement, quel était le meilleur selon vous tous, en très rapidement en un mot?
Ah, le plug anal, bravo, bravo Richard pour ce moment, vraiment complètement improvisé. Merci encore.
Je n'y suis pour rien.
Non, je crois que c'est le plug anal, c'est vraiment ce que vous avez, ce que vous avez fait de mieux. Non, mais merci beaucoup Richard.
Mais je crois qu'on peut dire que c'est le grand gagnant, hein, Richard, puisque sur 29 sonores, il est apparu 15 fois quand même. Donc je pense que c'est le gagnant.
Je suis vraiment mauvais, merci.
Bravo Richard de 16 et merci à vous tous, chers auditeurs. Merci d'avoir été ici avec nous pour cette dernière matinale de la saison. Merci d'avoir été présents. C'était la dernière fois que j'ai pu animer en votre présence ici sur Ligne Droite. Voilà, ça m'a fait très plaisir de conclure cette saison avec vous. Simplement, avant de vous retrouver le 24 août, soyez bien présents à 7h. Il faut simplement que je vous indique qu'il faut donner aujourd'hui, donner pour l'été.
Voilà, Radio Courtoisie a besoin de vous et traditionnellement, ou du moins chaque année, nous perdons des subventions pendant l'été, bien sûr, puisque les gens sont en vacances. Alors, pendant que vous faites vos valises, allez faire un petit tour sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour soutenir qui ? Radio Courtoisie et donc Ligne Droite et notre indépendance et vos idées. J'ai passé une bonne année avec vous, Alexandre, et merci aussi à toute l'équipe. Et j'espère vous revoir bientôt ici même. Et puis à vous tous, chers Lignonautes, merci de votre fidélité.
Voilà, et puis est-ce que vous avez un petit programme du jour quand même pour ces mêmes Lignonautes ?
Bien sûr, hein. Radio Courtoisie continue tout l'été et dans quelques instants vous pourrez suivre les Mardis de la mémoire d'Anne Collin, à midi le Libre Journal des Beaux-Arts dirigé par Michel Colombin, à 16h30 le RC Mag de Jean-Étienne Poza pour Patriotes en résistance, 17h Populaire, vous avez dit Populaire de Renaud Dourge, à 17h30 vous retrouverez Richard de 16 dans Restons Courtois, comment habiter la terre et comment choisir la mort, 2 sujets donc à partir de 17h30, 19h30, le Libre Journal de la Francophonie Heureuse d'Antoine Assaf. À 21h30, le Libre Journal de la Réaction d'Hilaire de Crémier. Et à 23h, la soirée musicale en compagnie d'Aline Aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup Franck. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents avec nous cette saison. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir vous accompagner chaque matin ici dans cette matinale. Et donc, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Je vous souhaite à tous d'être bien présents pour l'année prochaine. Il y aura le retour de l'Islotte du Treuil que vous attendez beaucoup. Je le sais, pour moi, je tire ma révérence. Merci à vous tous. Merci à Ligne Droite. Merci à Radio Courtoisie.
Merci à vous, cher Alexandre.